Bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce qui est, même pour ceux qui vont plus à l'école, la rentrée. Et donc, qui dit rentrée scolaire dit fin des vacances, même dans le choix des prédications, et retour des figures imposées, qui sont, vous le savez, l'étude de l'évangile de Jean. Nous avons commencé depuis plus d'un an maintenant, et dont nous arrivons bientôt dans les derniers chapitres. Et donc Emmanuel et Daniel ont souhaité que, pour ce deuxième dimanche de septembre, on reprenne l'étude de l'évangile de Jean. Aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 15, les 17 premiers versets, et nous sommes à la fin de l'histoire. Le dénouement approche. Vous avez tous en tête, évidemment, tout ce qui a pu se passer précédemment, soit à travers ce que les différents prédicateurs ont pu raconter, mais surtout à travers votre propre culture biblique. Tant de scènes dans divers endroits, de voyages, Galilée, autour du lac, de voyages à Jérusalem, de départs, de paraboles, de rencontres. Mais là, on arrive, comme je disais, à la fin de l'histoire. Le dénouement approche, et avant la grande explosion finale, qui va être le procès de Jésus, sa crucifixion, et heureusement sa résurrection, nous avons droit à un dernier moment d'intimité de Jésus avec ses apôtres. Et là où nous arrivons au chapitre 15, donc le chapitre précédent avait été fait juste avant les vacances. Judas vient de décider de trahir son maître, il a quitté la pièce, et donc il reste vraiment Jésus et les quelques fidèles dans la solitude et en même temps la fraternité d'un repas partagé, et qui est le dernier moment, entre guillemets, heureux de notre Seigneur, avant, comme je vous le dis, la grande explosion. Et ces quatre chapitres, c'est très long sur l'ensemble de l'évangile de Jean, c'est quasiment un monologue de Jésus, qui a un peu commencé au chapitre 14, mais qui va vraiment se prolonger à partir du chapitre 15 jusqu'à la fin du chapitre 17. Un très long monologue qu'on pourrait presque, d'un œil extérieur, considérer comme les dernières paroles du condamné. Ce que Jésus veut nous dire d'essentiel, c'est maintenant qu'il va le dire, parce qu'après il ne pourra plus. Ça sera d'autres gestes éminemment symboliques, et pas que symboliques, ça sera de la souffrance réelle, ça sera des actes qui seront posés et qui vont marquer des centaines de générations, mais les derniers mots d'être humain de Jésus au calme, même si en lui-même bouillait déjà l'angoisse de ce qui allait lui arriver, c'est maintenant que ça va se passer. Et donc, il faut l'entendre comme quelque chose de très important, parce que je pense que nous-mêmes, qu'on sentira qu'arrivera notre dernier moment, si on le sent, on aura envie de dire des choses importantes aux gens qu'on aime, aux gens qui nous ont suivis, pas pour laisser une trace de manière égoïste, mais pour essayer peut-être de transmettre les quelques connaissances qui nous semblent importantes de donner à ceux qui vont rester. Et c'est dans cette optique qu'il faut considérer l'étude de ce chapitre 15 et des chapitres qui suivront et qui seront traités par mes autres frères. Donc, très rapidement, dans les chapitres 13 et 14, donc, qui sont le début de ce grand monologue, on ne va évidemment pas le reprendre, il y a deux idées fortes, où Jésus vraiment dit quelque chose d'important. Il explique l'exclusivité du salut par Jésus. Vous connaissez tous cette phrase, Jean 14, 6. Je vais le dire précisément parce que moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc là, il le dit vraiment, de manière indiscutable. Ça ne se négocie pas. Je suis le seul chemin, la seule vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Et la deuxième chose très importante qu'il dit dans ses dernières volontés, en quelque sorte, c'est donc à la fin du chapitre 14, versets 16 et 17. « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous, qu'il sera en vous. Donc c'est la promesse du Saint-Esprit. Voilà, il commence son grand monologue de fin par ces deux assertions fondamentales. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et je vous enverrai le Saint-Esprit, vous ne serez pas seul. Et ensuite commence ce chapitre 15, où il va s'appuyer sur ces deux vérités pour aller plus loin et dire des choses encore plus profondes, plus intimes, et qui vont nous concerner vraiment, et qui concernent tous les croyants et même tous les hommes depuis que ces paroles ont été écrites, parce qu'elles ont une résonance très forte. Mais on verra ensemble qu'elles n'ont pas été comprises souvent de la bonne façon. Donc merci à José de nous... Alors je ne sais pas tout à fait la même traduction, donc c'est peut-être plus simple que je vous lise celle-ci, comme ça vous n'allez pas être gêné. Ah, mais si je suis pas assez... Voilà, donc c'est très embêtant. Ah ben si, c'est quasiment la même. Donc je lis celle qui est là. Oh, c'est... Moi, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pour tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, évidemment, c'est un texte d'une richesse énorme qui traite plusieurs sujets. Je n'en parlerai pas de tous aujourd'hui parce que ça serait trop long et peut-être que ça dépasserait certaines de mes compétences. Mais quand même, j'aimerais centrer sur les deux thèmes qui me paraissent fondamentaux, que vous avez notés. C'est d'abord que notre lien à Dieu seul, c'est ce seul lien qui nous donne de la valeur, cette fidélité absolue à notre Dieu qui nous permet de nous prétendre fils de Dieu et de bénéficier des fruits de son amour. Et justement, le deuxième point, c'est que l'amour est essentiel. C'est répété plusieurs fois, c'était même répété dans le chapitre 14, « Aimez-vous les uns les autres ». Et c'est tellement essentiel comme message que dans la culture générale de nos contemporains, mais quand vous dites, même ceux qui ne sont pas du tout chrétiens, quel est le message de Jésus ? Allez-y, vous n'y croyez pas, mais bon, vous dites que c'est quand même un homme sage, tout le monde a priori est d'accord sur ça, c'est un prophète, c'est quelqu'un qui a eu une importance historique incontestable, et même si historiquement il n'a pas existé, comme disent certains, il a laissé des traces philosophiques, c'est quoi son message ? Les gens vous répondent, aimez-vous les uns les autres. Et c'est donc que c'est une phrase forte, on dirait que c'est un très bon communicant. Parce que voilà un message qui touche tout le monde et dont les gens se rappellent. Parce qu'on ne peut pas oublier ça, aimez-vous les uns les autres. Et c'est ainsi que se termine ce début de chapitre, donc verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et d'ailleurs, tout le monde est d'accord avec ce message. Personne ne dit, moi je trouve que c'est un message stupide, je n'ai pas envie d'aimer les autres. Non, non, tout le monde est d'accord. Tout le monde. Le problème, c'est que ça ne marche pas du tout. Bon, alors, tout le monde a essayé, du hippie, les New Age, tout le monde, toutes les civilisations, a priori, ont porté ça en elles et tenté de montrer dans leur petite sphère personnelle que ça fonctionne et qu'en fait, c'est le fond de leur mode de vie. Mais ça ne marche pas du tout, et vous le savez aussi bien que moi. Ça ne marche à aucun degré. Ça ne marche pas sur, au niveau de la communauté des humains, de l'entraide, de la fraternité qu'on pourrait attendre. Un exemple tout bête, le virus Ebola, qui tue des milliers de personnes maintenant, mais c'est tellement loin en Afrique, que nous, Européens, on n'en voit absolument pas les moyens dont ils auraient besoin pour pouvoir arrêter ce virus, parce qu'il est loin. Donc, aimez-vous les uns les autres. Si ce virus se rapproche de l'Occident, là, vous pouvez être sûr que les moyens vont être mis en œuvre pour essayer de l'éradiquer. Mais c'est ce « aimez-vous les uns les autres » qui devrait être universel, ne fonctionne qu'à la hauteur de la blessure que peut nous infliger le souci qu'il y aurait si on n'aime pas la personne telle qu'il faudrait. Sur un point de vue politique, prenons Israël et Palestine, ça fait des décennies que ça dure, je pense que ce « aimez-vous les uns les autres » dans le fond de chacun des belligérants est quelque chose qui fonctionne, d'autant que c'est présent dans leur culture religieuse. Mais dès qu'on se place d'un point de vue politique, sur une grande échelle, c'est impossible à mettre en place. Et puis même sur les sentiments proches des gens entre eux. Alors, je vais prendre un exemple encore qui va vous faire sourire, mais regardez ce qui s'est passé entre notre président de la République et son ex-maîtresse. Aimez-vous les uns les autres. Pourtant, c'est des gens qui, même là, ils ont eu tous les déboires que tout le monde peut connaître, ça c'est leur vie privée, mais il faut qu'ils le disent et qu'ils se décochent des choses épouvantables, où l'amour qui a priori entre un homme et une femme qui pourrait être le plus simple à protéger ou à respecter, même quand il n'existe plus, est battu en retraite. Tout ça pour essayer simplement d'inscrire cette phrase « aimez-vous les uns les autres » et ce que les gens en pensent dans notre quotidien et montrer que c'est très beau philosophiquement, on le comprend, mais ça ne se met jamais en place. Et car cette demande d'amour-là finit toujours en cendres. À chaque fois, ça se finit mal. Les hommes ne s'entendent pas et ne sont pas capables de donner à l'autre l'amour qu'eux-mêmes aimeraient recevoir. Et on peut partir du grand principe que beaucoup de gens connaissent. Je préfère mon frère à mon cousin à mon voisin à mon concitoyen à un étranger. Peut-être que le jour où on trouvera des habitants sur la planète Mars, on dira « je préfère tous mes frères humains aux martiens qui risquent de débarquer un jour ». Donc on est toujours, cet amour-là dont Dieu nous donne le commandement, est toujours à l'aune de nos propres intérêts, de nos propres désirs et surtout de nos propres incapacités. Et c'est tout à fait désespérant parce que c'est quand même un commandement que Jésus nous donne. Et si nous-mêmes, dans notre fort intérieur, on sent bien, parce que là je suis en train de donner des exemples, on dit « mais oui, mais bon, mais si on cherche bien dans nos propres vies, on va très vite voir que notre barrière ou l'amour que l'on peut donner, cette barrière-là, on se heurte à notre incapacité, elle va venir assez rapidement. Je laisse chacun libre et moi en premier de se jauger dans sa propre existence. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce que les gens retiennent, ils disent tout le temps « aimez-vous les uns les autres », comme ce verset 17 le dit. Mais évidemment, ça ne marche pas parce qu'ils donnent le verset incomplet. Parce que Jésus, dans son monologue, nous donne ce verset 17, mais parce qu'auparavant, il nous a donné le verset 12, un peu plus haut. « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres », mais il est dit « comme je vous ai aimé ». Et ça, quand vous demandez aux gens la philosophie de Jésus, cette deuxième partie, ils l'oublient. Et pourtant, elle est absolument fondamentale, puisque ça place la barre beaucoup plus haut que nos simples réflexes dont je vous ai parlé, mon frère, mon cousin, etc., cette espèce de mise, de gradation des gens qui méritent plus ou moins notre amour, selon l'intérêt qu'on a d'être bien avec eux. Donc, Déjà, là, on quitte le monde, je dirais, le niveau 1, qui est le monde humain normal. On arrive dans le niveau 2, qui est le monde chrétien, qui est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Là, Jésus nous ouvre une piste. Alors donc, le plus simple, c'est de savoir comment il nous a aimés, pour essayer ensuite de suivre son commandement. Alors évidemment, c'est donné au verset 13, « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Là, on est dans l'amour maximum d'un humain pour un autre humain. Sauf qu'à ce moment-là, quand Jésus le dit, ses disciples ne savent pas encore. Enfin, ils commencent à comprendre, mais ils espèrent que ça ne va pas se faire. Ils font tout pour l'en empêcher, que Jésus va mourir. Donc, quand il leur dit ça, essayons de nous remettre dans leur culture très récente de ces 3 années passées. Qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus leur dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Alors, on va simplement, de manière très sérielle, lire, et je vais vous faire ça de façon un peu mécanique, tout ce que Jésus a donné comme preuve d'amour à ses contemporains, preuve d'amour que les disciples peuvent valider puisqu'ils étaient présents dans tous ces événements. La page, voilà. Donc ça va être le premier miracle, les noces de Cana, la guérison du fils d'un officier royal, la pêche miraculeuse, la délivrance d'un démoniaque, la guérison de la belle-mère de Pierre, la guérison d'un lépreux, la guérison d'un paralytique, la guérison de l'infirme de Bethesda, la guérison de l'homme à la main sèche, la guérison du serviteur du centenier, la résurrection du fils de la veuve, la guérison d'un démoniaque muet, la tempête apaisée, la guérison d'une femme malade depuis 12 ans, la résurrection de la fille de Jaïrus, la guérison de 2 aveugles et d'un démoniaque, la première multiplication des pains, la guérison de la fille de la femme cananéenne, la guérison d'un sourd muet, la seconde multiplication des pains, la guérison d'un aveugle à Bethsaïda, la guérison d'un jeune démoniaque, la guérison de 10 lépreux, le pardon à la femme adultère, la guérison d'un aveugle-né, la résurrection de Lazare, la guérison d'une femme infirme, la guérison d'un homme hydropique, la guérison des aveugles de Jéricho, la guérison de l'oreille de Malchus, le centenier. Oui, c'est après, donc ils ne l'ont pas vu, exact. Après, tu vois, j'ai fait le truc global. Donc arrêtons-nous là. Donc j'ai fait une liste un peu, merci Emmanuel, une liste un peu rébarbative pour vous montrer qu'ils ont passé leur vie avec Jésus à voir tous les gestes d'amour, les événements, les gestes physiques qu'il a pu faire pour donner de l'amour aux gens en les guérissant, en leur faisant du bien. Alors sans compter toutes les paroles, je ne vais pas répertorier, où il a été positif, où il a essayé de comprendre les gens, et de leur donner de l'espérance, de la compréhension, comme le serment sur la montagne par exemple, et d'autres choses. Donc, quand les disciples entendent ça, et quand nous entendons ça, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, c'est ça que ça veut dire. Tout ce que je vous ai donné, tout ce que je vous ai offert, tout ce que j'ai fait pour vous, pour vous faire du bien, tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'ai consolé, tout ce que j'ai guéri, c'est ça que ça veut dire. Mais qui peut aimer comme ça? Personne. Absolument personne. C'est un cul-de-sac. C'est une étoile insaisissable, comme celle de Jacques Brel. On ne peut pas y arriver. Donc, même si on passe au niveau 2, au niveau du chrétien, et qu'on remonte plus loin que « aimez-vous les uns les autres », mais on va à « comme je vous ai aimé », on se rend compte qu'on est encore dans un cul-de-sac. Et ce n'est pas possible que Jésus, surtout dans ses derniers moments, nous laisse un message qui est en fait une impossibilité pour nous. Donc, il faut chercher plus loin. Il faut mettre la barre encore plus haut. Le niveau 1, c'était très horizontal, aimez-vous les uns les autres, on fait ce qu'on peut, mais ça se finit comme ça. Le niveau 2, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On va essayer de suivre cet exemple-là, mais on voit vite les grandes incapacités qui sont les nôtres pour ça. Mais Jésus nous donne le niveau 3. Toujours dans Jean, dans le chapitre qu'on vient de lire, c'est au verset 9. C'est amusant parce qu'en fait, il nous donne les clés, mais à rebours. Comme s'il commençait du plus important pour finir par le moins important. Mais nous, pour le comprendre, il faut qu'on parte du moins important et qu'on remonte les marches vers lui. Et au verset 9, il est dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Donc, si on reprend notre marche, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, moi qui ai été aimé par le Père. Donc l'exemple, il ne vient pas de Jésus. L'exemple, il vient de Dieu. Il vient du Père. Et donc c'est là qu'il faut essayer d'aller chercher la clé à ce commandement qu'il nous donne. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, mais comme le Père nous a aimé. Donc comment le Père nous a aimé? Et là, si on peut répondre à cette question, on peut suivre ce commandement et lui, Jésus, peut vivre son sacrifice, nous offrir sa résurrection et nous, on a les outils pour suivre son commandement, puisqu'il nous dit que c'est le commandement le plus important. Alors, dans le texte qu'on a lu, ces trois niveaux sont parabolisés, en quelque sorte, symbolisés par le sarment, qui est l'humain, le cep, qui est Jésus, et le vigneron, qui est le Père. Donc on retrouve dans sa parabole du vigneron les trois niveaux dont je viens de parler. Alors, la question, c'était l'amour du Père, c'est quoi? Il faut aller au début, là où le Père commence, et donc c'est Genèse. Alors, je ne vais rien vous apprendre, simplement relire dans cette optique-là, ce que ça veut dire l'amour du Père. Comment il nous a aimés. Verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. » Il nous a créés à son image. C'est le mot « création ». On n'existait pas, on n'était rien, il nous donne la vie. C'est quand même le geste d'amour absolu, et à son image, il ne nous crée pas en sous quelque chose, il nous crée comme lui est. Un peu plus loin, dans Genèse 1, 31, il ne fait pas les choses n'importe comment. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Donc il a donné le maximum de ce qu'il pouvait pour que tout soit très bien, que tout soit parfait, que tout soit... que le cadeau qu'il nous fait... soit sans tache, comme lui l'est. Et enfin, un peu plus loin, dans le verset 22 et 25, il voit que l'homme est seul, donc tout n'est pas parfait quand même, il y a un manque, parce que tout cet amour qu'il a donné par sa création, par le fait que tout soit parfait, ben l'homme, finalement, il a un souci, il ne peut pas le partager. Or, un amour qui ne se partage pas, est un amour qui très vite devient vide. On sait bien, nous, que les plus grands moments de bonheur qu'on a eus, quand on parle d'amour, c'est quand on a donné. C'est pas quand on a reçu. On est content quand on donne de recevoir, parce que c'est à sens unique, on est bon. Mais c'est quand même là que nos joies les plus profondes existent. Et il va d'abord créer donc les animaux pour essayer que ça se passe bien. Et ensuite, enfin, c'est pas tout à fait comme ça, donc Yann va me reprendre. Je vais juste parler de ce qu'il va faire plus tard. Il va surtout créer la femme. Il va créer la femme qui, quand même, dans la pureté d'une perfection sans tache, est ce qu'il y a de plus beau dans l'amour, parce que l'échange, là, est magnifique, est magnifié. Il n'y a pas de honte. Au verset 25, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. C'est-à-dire n'avaient pas honte de partager cet amour qu'ils recevaient du Père et qu'avec leurs moyens, ils pouvaient se partager et s'échanger. Voilà ce que c'est que l'amour du Père au départ. C'est le don de sa création, de son image et du partage. Toute chose dont on rêve de pouvoir donner, de partager... Et quand on a la chance de pouvoir avoir des enfants, de créer, entre guillemets, quelqu'un à qui on va pouvoir transmettre tout ça et donner tout cet amour-là. Bon, vous savez ensuite que ça ne se passe pas très bien. On en a parlé dans une précédente prédication à propos du déluge, Noé, etc. Donc là, Dieu veut tout arrêter. Mais, vous le savez, il pardonne. Il permet à l'humanité de repartir quand même, à partir peut-être d'un seul sarment. Et son amour, là, est présent par le pardon. Après le don, il y a le pardon. Voilà aussi quelque chose que l'on comprend et qui nous touche. Les gens qu'on aime vraiment, à qui on a l'impression d'avoir tout donné, d'avoir fait le mieux pour eux dans notre imperfection, quand ils vont nous décevoir, et sans doute avec nos enfants, c'est ce qu'il y a de plus vrai, le pardon est tout le temps là pour remettre la machine de l'amour en route. Malheureusement, ça ne suffira pas pour que ça se passe bien, vous le savez aussi, et il va être forcé d'aller encore plus loin, c'est-à-dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. C'est une phrase qu'on a tendance à répéter facilement, mais qui est quand même la preuve absolue de l'amour. C'est-à-dire qu'après avoir donné, après avoir pardonné, maintenant il doit sacrifier. Ça, c'est l'étape suprême où autant le don et le pardon, on peut le comprendre et parfois essayer de l'appliquer, autant le sacrifice, là, c'est extrêmement difficile. Et c'est tellement difficile, et il sait tellement qu'on n'en est pas capable, que c'est son Fils qui va s'en charger de ce sacrifice-là, à notre place, en quelque sorte, pour qu'on n'ait pas, nous, à franchir ce cap terrible. Donc, à notre échelle, nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés, sachant que Jésus a été aimé comme Dieu l'a aimé, ça veut dire pratiquer le don, le pardon et le sacrifice. Et ceci entraîne quoi ? Toujours, tout ça est marqué dans ce même petit début de chapitre de Jean 17, dont je vous disais en préambule qu'il était vraiment très important et que Jésus avait concentré, et ça continuera, vraiment les moments clés du message qu'il veut nous délivrer. C'est dit un peu plus au verset 13. Ah ben je suis pas dans le bon chapitre, excusez-moi. Voilà, ça y est, désolé. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Donc la première récompense de cet amour absolu, cet amour parfait tel qu'on l'a décrit, parce qu'il vient du Père, donc c'est plus quelque chose qui est encore dans la coercition de notre mal terrestre, c'est la joie parfaite. Et il y a aussi la plénitude. Quand il dit, au verset 16, « Je vous établis afin que vous ayez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Qu'on ait la plénitude du don de Dieu par rapport à tous les besoins que l'on peut avoir. Mais qui du coup, quand on passe par le don, le pardon et le sacrifice, sont plus des besoins qui vont être personnels, égocentriques, mais des besoins qui vont aller vers l'autre. Voilà ce que ça veut dire. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et car le Père m'a aimé ainsi. C'est ça le commandement. Et vu sous cet angle-là, c'est d'une force et d'une puissance énorme. Et là, pour croire ça, il faut vraiment être chrétien, il faut vraiment être croyant, il faut avoir une foi forte, une foi solide, une foi inébranlable. Si on s'arrête à aimez-vous les uns les autres, ça ne marche pas. Comme je vous ai aimé, on est là, on va faire des prières tout le temps, des supplications, se battre la coulpe, mais ça ne marchera pas. Il faut monter à l'étage supérieur. C'est le seul qui vaille, puisque c'est l'étage de notre Créateur. Mais le problème, c'est que vous êtes, comme moi, je pense, cette joie parfaite, cette plénitude parfaite, on ne l'atteint pas. Enfin, moi, je ne l'atteins pas. Et à vous connaître un peu tous, je sais qu'a priori, il n'y en a pas un dont je sais que c'est la joie parfaite et la plénitude parfaite. Nous ne sommes pas dupes de ça. Donc, c'est qu'il y a quand même un problème. Quel est-il, ce problème ? Alors, pour y répondre, et ça sera ma conclusion, je vais passer par le biais d'un film. Le cinéma, parfois, ouvre quelques portes que Martine et Dominique ont partagées avec moi. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu, c'est Lucie, le film de Luc Besson, qui en ce moment fait un carton sur les écrans, et qui a ouvert une porte, on a pu en parler un peu. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc le film, très rapidement, qui l'a vu ? C'est de là, c'est de là. Donc, je suis content d'être critique cinématographique. C'est une jeune femme, tout à fait normale, qui, à l'occasion d'un deal de drogue, dont elle est la victime totalement innocente, reçoit en dose énorme une... une substance chimique qui en fait est, alors ça c'est, paraît-il que c'est vrai, la femme enceinte crée cette substance qui permet de donner de l'énergie au fœtus pour grandir. Le temps que le fœtus grandisse, elle crée cette substance, je ne trouve pas le mot exact, qui, alors c'est la E48, etc., qui permet à l'enfant d'avoir toute cette énergie vitale pour grandir. Puis quand l'enfant est là, cet élément disparaît. Et donc, alors ça c'est complètement de science-fiction, des Japonais évidemment qui sont méchants, ou des Chinois, arrivent à créer cette substance en grande quantité pour la vendre et droguer le monde à une dose ahurissante avec des effets incroyables. Et cette femme reçoit par erreur une grande dose de cette force créatrice, en quelque sorte, de cette... Et l'autre postulat de départ du film, et c'est en ça que ça vous intéresse beaucoup, c'est que ils disent que... Alors, beaucoup de scientifiques s'accorderaient sur ça. On est encore dans le règne de l'hypothèse que l'être humain n'utilise que 10% de son intelligence, de son cerveau, de ses capacités. Et que 90% n'est pas du tout utilisé pour X raisons. Et donc, il y a un grand pouvoir humain à découvrir, à apprendre pour améliorer notre espèce humaine. Et cette femme, avec cette fameuse molécule à grande dose qu'elle reçoit, va en quelques jours passer tous les caps des pourcentages d'utilisation de son cerveau pour finir à 100% de l'utilisation. Alors, ce que fait chez elle ces 100% d'humanisation absolue, on pourrait dire, en fait, ça la déshumanise totalement. Elle va finir dématérialisée, on va dire, à un moment... Quoi ? Ah bah, si, là, écoutez, il est sorti depuis un mois, là. Alors, bouchez-vous les oreilles, alors. Mais je ne dirai pas. Mais il n'y a pas de fin particulière, en plus, donc ça va. Donc, disons qu'elle va perdre, elle va contrôler tous ses sens, donc contrôler les autres, l'espace, l'ouïe, etc. Enfin, elle va avoir une vision du monde, une perception de sa vie et de tout ce qui l'entoure, de la nature, absolument fantastique, et donc elle va, entre autres, la dématérialisation, le pouvoir sur les gens, enfin, tout, l'intelligence absolue, tout ça va aller jusqu'à le 100%, où, donc bouge-toi les oreilles, et Emmanuel, elle va finir à ne plus être présente, et elle va dire à un moment, on va lui demander « Où êtes-vous ?» et elle va répondre par Internet « Je suis partout ». Donc tout ça n'est pas sans vous rappeler des petites choses. Donc le film, l'idée est très très adroite à partir d'un postulat qui ne serait pas faux. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette femme, en ayant ses 100%, en fait se déshumanise vraiment, ne connaît plus l'amour, ne connaît plus la tendresse, ne connaît plus la fraternité, elle s'éloigne de ses frères humains. Et c'est quelque chose qui nous a frappé. Et dans ce qui nous intéresse là, et c'est pour ça que j'en parle, je ne suis pas du tout sur une fausse piste, j'ai le sentiment, en relisant la Genèse, que quand Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden, ils sont à 100% de la relation avec Dieu. C'est-à-dire tout leur cœur, tout leur cerveau, tout leur âme est totalement avec Dieu, à 100%. Et ils jouissent de tout. Ils sont dans cette création parfaite, ce don dont on a parlé à propos du Père. Ils le vivent complètement. Et ils n'ont pas... Ils ne peuvent pas imaginer qu'il y ait mieux, ils sont dans la joie et la plénitude. Malheureusement, après la chute, cette relation avec Dieu, parce qu'ils sont chassés, donc ils perdent, ça, ils vont tomber 90, 80, 70, je ne sais pas, jusqu'à nous-mêmes, quel est notre pourcentage de relation avec Dieu ? Est-ce que c'est 10 ? Est-ce que c'est 15 %? Est-ce que c'est... Tout ce que Dieu nous a donné au début dans la perfection de son amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme Dieu m'a aimé, c'est-à-dire qu'il lui a donné tout. Et nous, on avait tout. Or, cette drogue d'énergie vitale qui nous avait été donnée au départ, on se l'est enlevée au fur et à mesure. Au fur et à mesure de notre pseudo-liberté. Et toute l'histoire de la Bible, ce n'est que ça. Pour arriver à où nous en sommes aujourd'hui. Donc, notre désir profond, et on l'a au fond de nous, surtout en étant né de nouveau avec Jésus, c'est d'aspirer à revenir à 100%, à redevenir cet être parfait où l'amour parfait peut fonctionner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne marche pas, même si Jésus nous explique l'amour du Père tel qu'il est, tel qu'on doit l'imaginer et se l'approprier. Parce qu'on a coupé trop de ponts entre lui et nous. Et que Jésus, par son amour, son sacrifice, sa résurrection, a remis en place. Mais tout ça s'est fait, comme dirait José quand il faisait son travail d'électricien, c'est des bouts de fil qu'on a rabibochés, mais ce n'est pas du câble solide. Et il faut remettre ce câble solide qui est le 100%. Et quand est-ce que ça se fera, ça? Ça sera la nouvelle création. La nouvelle création, on sera parfaitement les nouvelles créatures, où, sans doute, on aura à ce moment-là, et les textes le disent, de nouveau, cette plénitude de la relation avec Dieu qui fera qu'on sera des êtres humains, humains au sens premier du terme, tel qu'on avait été créé, à 100% et non pas à 10% comme cette Lucie dans ce film-là ou comme nous le sommes là. Et c'est notre faiblesse, c'est notre torture. On est là, on chante des choses quand on est « Pardonne-nous Jésus », là, le chant « Pardonne-nous Dieu », je ne sais plus exactement, c'est tout à fait ça. C'est que Dieu a mis en nous, par son amour et par la foi que maintenant on a en lui, cette envie des 100%. Mais on sait bien qu'on n'est pas capable. Alors intellectuellement, on peut le comprendre, mais il faudra attendre les nouvelles terres pour pouvoir regoûter à ça. Et en attendant, eh bien, essayons d'augmenter notre pourcentage par tous les commandements que Jésus nous donne, dont le principal, en effet, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, comme Dieu m'a aimé, en ayant conscience que de tout ce qui nous manque, mais essayons à chaque fois de rajouter un fil, un câble, pour que la relation soit de mieux en mieux et qu'on puisse profiter des fruits, comme il est dit, pour atteindre la joie et la plénitude. Alors pour finir, je voudrais juste, parce que là on s'est mis l'eau à la bouche sur ces 100%, lire 5 textes qui seront ma conclusion, qui sont la description de l'amour absolu, d'où on vient, qu'on a perdu et que l'on veut retrouver, et que l'on doit par bribes essayer d'instiller autour de nous, comme Dieu nous le commande. Alors, il y a 5 textes, donc ça sera très rapide. Ésaïe 65, donc c'est tous des textes sur les nouvelles terres, les nouvelles créatures, la nouvelle Jérusalem. Donc écoutez-les comme des promesses magnifiques, où on sent poindre dans ce qui est décrit l'amour parfait dont on rêve, dont on a besoin et dont Jésus nous a mis quelques bribes au fond de nous. Et c'est ça qui nous fait tenir, malgré tout ce qui peut nous arriver et qui nous fait avancer et qui fait que nous sommes à part, non pas par notre propre qualité, vous l'avez bien compris. 65, 17-25, écoutez. Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début, ils ne remonteront plus à la pensée. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus là de nourrissons vivants quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ses jours. Car le plus jeune mourra à 100 ans et le pécheur âgé de 100 ans sera considéré comme maudit. Ils bâtiront des maisons, ils les habiteront, ils planteront des vergers et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas pour la nourriture d'un autre, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne peineront pas en vain et n'auront pas des enfants pour l'épouvante, car ils formeront la descendance des bénis de l'Éternel, et leur progéniture sera avec eux. Et alors, avant qu'ils m'invoquent, moi je répondrai. Ils parleront encore que moi j'exaucerai. Le loup et l'agneau auront un même pâturage, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Dans Hébreux, il y a 2 versets qui expriment à travers Paul exactement ce que l'on ressent de cette attente-là, de cette espérance, de ces 100% dont on veut s'emparer. Hébreux 11, verset 16. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreux 13, 14. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Donc on l'a un peu décrite dans Ésaïe. Et maintenant, je voudrais terminer par cette cité-là, dans Apocalypse 22, chapitre, versets 1 à 5. C'est le dernier chapitre de l'Apocalypse. Et j'aimerais qu'on l'entende à travers tout ce que j'ai essayé modestement de vous dire, ce prisme un peu particulier, que d'entendre que dans ce texte-là, qui pour moi est magnifique, c'est vraiment la description de l'amour absolu, parce qu'il n'y a que de la lumière, et la lumière, ça veut tout dire, si on réfléchit bien. La lumière, c'est la pureté, c'est la sincérité, c'est la connaissance de tout. Écoutez bien, et ça sera vraiment ma conclusion, et j'aimerais que ces cinq versets nous accompagnent dans la semaine, les moments où il y aura de l'obscurité, où cet aimez-vous les uns les autres vous paraîtra pour vous-même vers les autres peu tenu, et surtout des autres vers vous pas du tout présents. Gardez cette espérance-là. Là, on est à 10%, on en prend plein la tête, mais il est avec nous et il nous promet les 100% qui sont là. Apocalypse 22, versets 1 à 5. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles.